RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le meilleur des grandes gueules.
1, 2, 3, 4. RMC, face aux grandes gueules.
Brian Huguère-Cousin, Mathieu Slys, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous les deux, merci d'être là. C'est un livre enquête qui fait froid dans le dos quand on le prend, quand on regarde, parce que ça a trait à la mort, ça a trait aux enterrements auxquels on a tous été confrontés, ou nos proches seront confrontés bien évidemment un jour. Mais je voudrais qu'on pose le débat avant d'entrer dans le détail, qu'on pose le débat. Un, le marché des pompes funèbres, ça se chiffre à combien de milliards en France ?
Le marché des pompes funèbres en France, c'est 3 milliards d'euros par an. C'est un peu plus de 600 000 obsèques. Et dans ce marché concurrentiel depuis 30 ans, il y a deux acteurs qui ont une place.
Ça a été libéralisé en 93.
Libéralisé en 93. Et donc dans ce marché concurrentiel, il y a deux acteurs sur lequel porte le livre, qui ont une position dominante dans ce marché. En fait, il y a un acteur qui s'appelle OGF, et sa marque Pompes Funèbres Générales, que, à mon avis, vos auditeurs connaissent bien. Et une deuxième marque qui s'appelle Roc Éclair, qui est détenue par Funécap, un autre groupe. Donc, ces deux groupes qui sont détenus par des fonds d'investissement, parfois étrangers pour OGF, organisent une obsèque sur trois en France.
D'accord. Alors, le livre s'appelle Les Charognards, parce que vous dites aujourd'hui, ce qui est le cas de tout secteur d'activité à partir du moment où il est privé, c'est-à-dire c'est un secteur qui fait du business sur la mort, c'est ça,
oui.
Qui cherche le profit et la rentabilité.
Tout à fait. En fait, donc ces deux entreprises qu'a cité Mathieu, donc OGF et Funécap, ce sont des entreprises où le chiffre est vraiment au centre, est vraiment central. Ça veut dire que les personnes qui travaillent en agence, donc on appelle les conseillers funéraires, leur rôle principal, c'est d'accompagner en fait les familles, dans l'organisation des obsèques de leurs proches, etc. Sauf que nous, ce qu'on sait pas quand on pousse la porte d'une agence de pompes funèbres, c'est que ces personnes, ces salariés-là, ont des objectifs de vente. D'ailleurs, on nous a donné récemment en fait des petits fascicules de formation. Qui indique justement la marche à suivre en fait pour vendre les cercueils les plus chers, pour mettre tout le temps des options qui sont absolument pas obligatoires, hein, des options pour les vendre le plus possible, pour que la famille qui est en situation en fait de dépenses contraintes derrière, qui ne se rend compte de rien parce qu'elle est évidemment très affectée hein, par ce qui se passe, pour que la famille dépense
donc,
plus possible.
Finalement, à vous écouter, qu'on pousse la porte d'une banque ou qu'on pousse la porte d'une maison d'obsèques, c'est la même chose. Quoi. On doit nous vendre, on n'est pas dans le même état d'esprit, mais on doit nous vendre quelque chose.
En fait,
on doit nous vendre les meilleurs produits possibles.
On ne fait pas de généralité sur les agences de pompes funèbres. Le livre, il s'est vraiment focalisé
sur le
fonctionnement de deux industries.
Deux groupes, oui.
En fait, c'est ça, il y a un mode de fonctionnement industriel qui est très bien décrit par Brian, et il y a des nouveaux témoignages qui nous arrivent, des nouveaux documents qui arrivent. On publie demain sur le site de Mediacité des nouveaux documents. En fait, c'est très intéressant, c'est-à-dire on a eu en possession en fait la grille d'entretien que doivent déployer les conseillères funéraires d'OGF. En fait, cette grille d'entretien, elle est assez hallucinante, c'est-à-dire que pour chaque objection des familles, vous avez une contre-objection et des méthodes qu'on entend, qu'on connaît peut-être auprès de son concessionnaire automobile pour nous faire monter en gamme, etc. Sauf que là, ce qui se passe, et pour dire des mots qui sont peut-être crus, c'est du chantage affectif, en fait, ce qui se passe. C'est que, en fait, on est dans une capacité, on a une industrie qui, pour faire monter en gamme les familles, va aller toucher la corde sensible. Pour prendre un exemple concret qu'on révèle demain, vous avez, en fait, une page dans ce fascicule de formation où il y a écrit comment transformer un non en oui. Avec une méthode où vous allez tenter de
méthode commerciale,
vous allez tenter en fait d'obtenir des quick wins, c'est-à-dire des petites victoires, c'est-à-dire vous allez obtenir plusieurs oui d'affilée, et ensuite, puisque le oui entraîne le oui, vous allez arriver à vendre la prestation à l'arrivée. C'est-à-dire, c'est des méthodes de psychologie sociale, voilà, et appliquées à ce monde du deuil, ça nous hallucine et ça corrobore vraiment les éléments qu'on a dans le livre et qui pose vraiment question sur un commerce qui est évidemment pas comme les autres.
Alors, on va sûrement avoir vos témoignages au 32-16. Peut-être que vous-même, vous avez eu de mauvaises expériences avec ce que nos camarades appellent les charognards, mais alors, vous allez donner aussi des exemples qui sont plutôt morbides, qui font froid dans le dos. Il va y avoir les questions d'Emmanuel, Chirine et Charles. Mais quand on regarde, c'est tout un process. Parce que, à un moment, dans votre livre, vous expliquez, parler de toile d'araignée funéraire. d'accord, et qui se fait en fait, on est les proies dès qu'on a un défunt dans la famille, quoi. Voilà, c'est ça commence tout de suite à ce moment-là. Vous dites, c'est capter les défunts à la source. Ça veut dire quoi, ça?
C'est même avant en fait d'avoir un défunt, notamment via les contrats d'assurance obsèques. Justement, les documents dont parlait Mathieu et qu'on va révéler demain, on voit que lorsque vous entrez dans une agence de pompes funèbres pour enterrer votre maman, votre papa, si vous avez plus de 60 ans, je suis désolée de vous le dire, si vous avez plus de 60 ans, vous êtes des cibles à qui on va vendre. On va en tout cas fortement inciter à la vente des contrats d'assurance obsèques. Les contrats d'assurance obsèques, ce sont le moyen pour les entreprises, donc OGF et Funecap, d'aller chercher des futurs clients en fait, des personnes qui demain seront la personne qui sera inhumée ou crématisée, quoi.
Oui, mais c'est, vous dites ça se fait à la source en fait, hein, avec la police. Je savais pas moi que la police a l'obligation d'appeler les entreprises dans un ordre qui est fixé par le marché. Ça, c'est quelque chose que j'ignorais. Je pensais que c'était nous qui nous en chargions, mais en fait ça nous échappe un peu.
En fait, c'est effectivement les seules personnes habilitées à transporter des corps, ce sont les agents des pompes funèbres. Et donc vous avez en fait ce qu'on appelle des réquisitions de justice. Vous avez un décès sur la voie publique, par exemple un accident de la route, et donc la police va constater effectivement l'incident, va sécuriser les lieux, et ensuite ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va appeler, elle va réquisitionner une agence, et il faut qu'elle soit disponible. Et donc du coup, il y a un marché qui est passé, qui est un marché public classique auprès des préfectures, où vous avez finalement les grands groupes qui répondent fortement. Pourquoi ils répondent fortement? Parce qu'ils sont très calibrés, ils ont beaucoup de salariés, donc, ils sont présents partout sur le territoire, et donc ils sont les mieux calibrés pour répondre. Ce qu'on découvre, et on a un témoignage assez édifiant dans le livre, on a un chauffeur porteur de Roc Éclair à Limoges qui nous dit, quand on sait que la famille est également présente par exemple sur un accident de la route, on va nous dire allez-y accompagné d'une conseillère funéraire, comme ça vous créez un premier contact avec la famille, parce qu'en fait même si c'est Roc Éclair qui organise la réquisition et qui ramène le défunt dans une chambre funéraire, il y a aucune obligation ensuite pour la famille de passer par Roc Éclair pour organiser tout ça. Ils peuvent choisir totalement, sauf qu'il y a ce premier contact, et il nous racontait même que lui, consigne lui était donné de filez une carte de visite, appelez-nous demain, on s'occupera de tout.
Et puis il y a des mésaventures, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on passe un contrat et qu'on attend un service, le service n'est pas toujours à la hauteur du contrat qu'on a passé. Ça, ce sont les exemples que vous donnez qui sont marquants, par exemple pour des cercueils qui arrivent, qui sont abîmés ou qui sont sales.
Oui, vous faites allusion à une histoire qu'on raconte, celle des obsèques d'une dame qui s'appelle Maggie Duciel. En fait, lorsque sa famille est arrivée, donc vous imaginez l'ambiance, donc on arrive à la chambre funéraire avec toutes les personnes qui vont venir aux obsèques. C'est très codifié, donc en fait, à partir du moment où on arrive, tout va très vite. Il faut d'abord faire la mise en bière, donc mettre le corps dans le cercueil. Ensuite, il fallait aller au crématorium. La famille arrive, c'est de bon matin, et le personnel du funérarium dit « Catastrophe, le cercueil n'est pas arrivé ». Derrière, le cercueil n'est pas là, on ne peut pas faire la crémation. On ne peut pas mettre le corps de Madame Duciel tel quel, on va dire, dans le crématorium. Panique générale, évidemment, la famille déjà très très affectée, soudainement se dit « Il va falloir gérer cet imprévu qui est très stressant ». Finalement, au bout d'une demi-heure, 40 minutes, le cercueil arrive. Deuxième mauvaise surprise, c'est pas le bon. C'est pas celui qui est commandé. La famille voit que le cercueil est rayé, que la plaque d'identification où il y a marqué le nom de la maman est sale. Donc moi, j'ai rencontré la fille de Madame Duciel qui disait « c'est moi qui ai dû aller nettoyer la plaque de ma maman ». Ils ont évidemment peu de temps pour se recueillir, vu qu'on est déjà en retard, donc il faut vraiment se presser. Derrière, la cérémonie au crématorium également se passe relativement vite, vu que tout le convoi a pris du retard finalement. Résultat, un an après, puisque c'était il y a à peu près un an, la famille est encore traumatisée. Elles n'ont pas pu faire le deuil de leur mère.
Il y a eu des excuses de la part de ceux qui devaient s'occuper de ça, il y a eu un dédommagement, il y a eu quelque chose.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que cette cérémonie, elle a eu lieu il y a un an. Elle a fait des contestations, cette dame. Et en fait, à la faveur du livre, on a envoyé des questions à Pompes Funèbres Générales et à son patron Alain Côté a pris son téléphone et a appelé de lui-même les enfants pour finalement leur dire « je vous dédommage ». À la faveur du livre, c'est-à-dire ça a accéléré les choses. Donc ça montre que cette situation-là, il y a une volonté pour Pompes Funèbres Générales de dire « regardez, on réagit vite ». Sauf qu'en fait, ça faisait un an, ils ne l'avaient pas encore dédommagé, ils le dédommagent, c'était une semaine avant la sortie du livre.
Alors, on va continuer de discuter avec vous, hein, Brian Huguer, cousin, et puis Mathieu Slis, les charognards, pompes funèbres, enquête sur le business de la mort. Donc, des questions, Charles Consigny, Emmanuel Devilliers, Chérine Ardacani, allez-y, Emmanuel. Oui.
Alors, moi, c'est un sujet que je connais comme tous nos auditeurs, j'ai enterré mes deux parents, et j'ai failli aussi, en tant que chef d'entreprise, acheter le leader français des accessoires funéraires. Donc, j'ai travaillé plusieurs mois dans cet environnement, qui d'ailleurs, c'est tragicomique, mais peut être assez amusant parce qu'il y a des anecdotes assez désopilantes. J'en citerai une dans votre livre assez incroyable dans un instant. Bon, votre livre il est positif parce que il alarme sur certaines dérives et donc il réfrène ces dérives. Bon, c'est vrai que le slogan de Rock Éclair parce que la vie est déjà assez chère. C'est quand même assez incroyable, mais je le trouve un peu sévère néanmoins. Vous allez chercher des salariés qui disent du mal de leurs employeurs. On peut le faire avec n'importe quelles entreprises. Généralement, c'est pas les meilleurs salariés, mais considérons que c'est une enquête très fouillée et bien rédigée. Et au-delà du fait que la vie n'est qu'un passage et que ça paraît normal quand même de dépenser pour des obsèques quand on s'achète des matelas, une piscine, une terrasse, une voiture, on dépense beaucoup d'argent pour enterrer un être cher. C'est normal aussi qu'on mette la main à la poche. Mais j'en termine juste par un mot extrait de votre livre à la page 89, qui est tout à fait extraordinaire. Il est tragicomique et je vous en laisse la paternité. Je cite, vous citez donc une employée des pompes funèbres qui déclare « Si la personne est trop grande par rapport au cercueil, tu plies un peu les jambes pour que ça passe. Mais si t'as un couvercle plat, t'es dans la merde, mais t'as pas le choix, faut que ça rentre. »
Alors ça, effectivement, est-ce qu'on peut le prendre en se disant, c'est de rire dans la tragédie, ou au contraire, on se dit que c'est une faute professionnelle.
C'est une faute énorme. Mmh. En fait, ce qu'on cite là, à cette page-là, donc nous, on a cité cette personne-là, mais en fait, c'est quelque chose que beaucoup de nos sources nous ont rapporté, finalement. C'est une méthode, une technique qui est relativement connue, en fait. Il y a qu'à voir vos confrères de M6, je pense, ont interrogé un ancien chauffeur porteur qui raconte exactement la même chose. Cette histoire de plier les jambes, c'est une façon de faire rentrer le cercueil, effectivement, le corps, pardon, dans le cercueil. Et effectivement, si vous voyez les cercueils, il y en a avec un couvercle un peu bombé. Si c'est ce cercueil-là, à la limite, ça passe.
Pour répondre aussi à l'interpellation sur la méthode et sur qui sont les témoins qui parlent, ça, je pense que c'est très intéressant aussi de faire un peu de pédagogie sur ça. Qu'est-ce que c'est que faire une enquête? Nous, on a travaillé donc pendant un an sur ce livre. Effectivement, on prend des contacts, on va dire, officiels avec ces entreprises. Ce qu'on a découvert, c'est que, en fait, ces entreprises, elles réfrènent. Elles parlent dans le livre, effectivement. Mais je veux dire, les entreprises, elles réfrènent très fortement, mais très, très fortement, la parole de leurs salariés. On a récupéré des mails. C'est effectivement une consigne qui est donnée. Vous ne parlez pas aux journalistes. Les journalistes ne sont pas vos amis. Ils vont mettre en danger l'entreprise. Vous ne leur parlez pas. Et donc, ça fait une situation dans laquelle les personnes qui sont en capacité de parler sont des personnes qui ne sont plus dans l'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que depuis la parution du livre, il y a des langues qui se délient, il y a des documents nouveaux qu'on récupère, et il y a des salariés actuels de l'entreprise qui nous disent « Vous avez visé en plein dans le mille, si j'avais pu vous parler, je vous aurais dit ça, ça, ça et ça. » Ça émerge après chacune de nos interventions, on a des nouveaux messages, etc. Et donc, je suis pas... Comment dire? Je peux pas laisser dire, en fait, qu'on a choisi uniquement des personnes qui avaient tout intérêt à cracher sur leur entreprise qui fonctionnait mal. C'est-à-dire que, pour l'instant, il n'y a eu aucun démenti de nos informations par ces deux groupes. Le livre, il est sorti il y a 2 semaines. Nous, on persiste avec toutes les informations qu'on a publiées, qui on considère, en fait, sont un portrait extrêmement réaliste, peut-être extrêmement dur, mais de comment fonctionnent ces deux entreprises qui ont transformé le chagrin des gens en argent.
Une question avant de passer la parole à Chérine et à Charles, et vous allez rester avec nous, parce que je sais qu'au 32-16, les gens qui veulent en parler, qui veulent témoigner, est-ce que vous avez été confronté à des inversions d'urnes funéraires dans les témoignages, à des inversions de corps ou d'attentes de corps qui ne viennent pas? Est-ce que ça fait partie des témoignages que vous avez eus?
On raconte notamment l'histoire d'une personne qui s'appelle Patrick Audierne, qui a encore aujourd'hui un doute. Est-ce que les cendres qu'on lui a remises sont bien les cendres de son papa? Aujourd'hui, il ne le saura jamais. Ce sont des cendres qui ont été dispersées dans la mer, conformément aux volontés, aux dernières volontés de son père. Donc, entre guillemets, c'est un peu tard. Il a été confronté à un silence très... très marquant en fait de la part de Funecap, qui est l'entreprise qui a organisé justement les obsèques de son père. Il est aujourd'hui dans une procédure judiciaire avec cette entreprise, car aujourd'hui, des années après les obsèques de son père, il ne sait toujours pas si c'est bien son père qui est dispersé dans la mer.
Pourquoi il n'a pas cette garantie? Pourquoi il ne peut pas obtenir cette garantie?
C'est une histoire.
On a tous été à une crémation, on nous dit monsieur, madame, vous avez choisi l'urne, revenez ce soir ou revenez demain matin, on vous remet l'urne. Donc c'est vrai qu'on fait confiance.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, puisqu'il voulait faire une dispersion de décembre son père dans la mer, il avait choisi une urne qui est très facilement reconnaissable, qui est une urne en sel qui se disperse dans l'eau, qui se dissout. Et en fait, du coup, il a très vite reconnu que l'urne qu'on lui a remise, elle ressemblait pas du tout à celle qu'il avait commandée. Et donc finalement, ensuite, il s'est déroulé tout un imbroglio où en fait il a toujours pas l'assurance que on lui a donné l'urne qu'il voulait, mais est-ce qu'il y a eu un transfert des cendres d'une à l'autre? C'est très glauque en fait cette histoire. Et ce qui est très singulier et ce qui est très marquant, c'est que en fait maintenant les seuls rapports qu'il a avec cette entreprise, c'est par avocat interposé. Quand il alerte l'agence Roc Éclair de banlieue parisienne pour lui dire j'ai un sérieux doute, répondez-moi s'il vous plaît, il est renvoyé vers le service SAV de l'entreprise et ils mettent quasiment 2 mois pour lui répondre. Et donc, quand on a entendu certaines réactions de Funecap en disant les erreurs que vous racontez dans le livre, elles sont rarissimes et on les traite avec diligence et respect. Qu'ils aillent dire à Monsieur Patrick Audierne qu'ils ont traité son cas avec diligence et respect, parce que 3 ans plus tard, la seule manière qu'il a, lui, il a aucune prétention financière. Ouais. Il veut juste avoir l'assurance que les cendres qu'il a dispersées, c'est celles de son père, et il doit gérer ça devant la justice. C'est absolument minable comme réaction.
Avant de vous donner la parole, Chirine et Charles, on va aller dans l'Aveyron. C'est Guillaume qui est gérant de pompes funèbres, qui va intervenir au 32-16. Bonjour Guillaume.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que vous pensez du livre et de ce que dénoncent nos deux confrères, Brian Huguercousin et Mathieu Slys, alors? Et ils parlent bien de deux groupes distincts. Attention, hein, faut mettre pas les gens, les artisans funéraires ou autres dans le même sac. Allez-y.
Exactement. Je pense qu'ils ont raison dans leur livre, ils dénoncent deux groupes qui sont pour moi des supermarchés de la mort, qui sont juste là, exactement comme ils l'ont écrit, pour faire du business, comme un supermarché par rapport à votre épicier de quartier. Où nous, au jour d'aujourd'hui, on est des petites pompes funèbres indépendantes, où on est très nombreux comme ça en France, et où on est très engagé au niveau des familles, des défunts, et où c'est un métier qui, comment dire, où on passe beaucoup de temps, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Donc c'est un métier passion, quand on le fait, c'est un métier passion pour beaucoup de pompes funèbres. Mais ces grands groupes sont là uniquement pour faire de l'argent. Ils font aujourd'hui l'argent sur le...
Donc vous ne faites pas le même métier. Ce que vous voulez dire, c'est que vous ne faites pas le même métier, en fait, c'est ça?
Pas tout à fait. On fait le même métier, si on veut, sur la base. Mais ensuite, dans toutes les démarches, dans tout ce qui s'ensuit avec le relationnel, les familles et les défunts, on n'est plus du tout dans la même chose.
D'accord. Vous, aujourd'hui, vous avez combien d'employés, Guillaume, avec vous?
Alors, bon, moi, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, en plus des pompes funèbres, on est aussi une société d'ambulance et de taxi. Donc, au jour d'aujourd'hui, on est une dizaine sur la totalité de la société. D'accord. Donc, c'est une petite société familiale. Mais, et encore plus, nous, de par notre métier. Donc, c'est-à-dire que nos défunts, en fait, les défunts, on les connaît, on les prend souvent en charge en ambulance, etc. Donc, il y a beaucoup d'empathie par rapport aux gens et par rapport aux familles. Les gens ne sont pas considérés comme des dossiers, contrairement à ces grands groupes qui sont là pour faire du chiffre.
Qu'est-ce que vous avez à répondre à Guillaume? Il y a les artisans de la mort et puis il y a les grands groupes, c'est ça? On peut différencier les deux aujourd'hui?
On peut même différencier à l'intérieur des groupes. Enfin, globalement, c'est un métier qu'on a découvert à la faveur de ce livre. Ce sont des métiers du funéraire, ce sont des métiers de l'engagement, des métiers difficiles, pénibles, peu rémunérateurs. Y compris à l'intérieur des deux entreprises, OGF et Funecap, nous, on a recueilli des témoignages qui nous ont glacés, c'est-à-dire de salariés brisés.
C'est-à-dire brisé comment?
Brisé émotionnellement. C'est-à-dire que vous vous engagez comme conseillère funéraire pour être au contact des familles, pour les aider dans un moment qui est peut-être le plus difficile de leur existence, et vous êtes percuté en même temps par des impératifs de rentabilité qui vous empêchent de faire votre boulot comme vous auriez voulu le faire. Et on a vraiment des témoignages dans le livre, un chapitre entier d'une jeune femme qui était brisée par son expérience. Et là, c'est intéressant, on a eu l'occasion de lui reparler. Elle a changé d'entreprise, elle est dans une entreprise indépendante, elle va beaucoup mieux depuis qu'elle a quitté ce groupe. Donc c'est
une entreprise que celle de Guillaume, en
voilà,
fait.
Voilà, une entreprise humaine, de ce style-là, de taille humaine.
Merci Guillaume d'avoir été avec nous. Merci de votre témoignage.
Merci à vous.
Alors, merci Chirine. Question et puis ensuite Charles Consigny. Chirine.
Oui, non, mais je vous remercie pour cette enquête qui est vraiment hyper intéressante. Vous avez dit dans votre livre quelque chose qui m'a profondément marqué. Vous avez dit en France, un malade est un patient, un défunt est un produit marchand. Et vous parlez ensuite de l'industrie du chagrin. Et donc, au fond, on comprend bien que le problème, en réalité, et je crois que c'est un peu ce que disait Guillaume, c'est que quand on se lance dans cette activité, au départ, on a conscience que en fait, on fait une activité d'intérêt général. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas juste au départ un marché lucratif alors qui a été libéralisé, c'est tout le problème. Mais au départ, on a bien conscience que c'est pas une activité qui est anodine, c'est une activité d'ailleurs de service public, le fait de pouvoir accompagner ces gens-là. Et donc, on voit bien, enfin, en tout cas, de ce que je comprends de votre ouvrage, c'est la logique du marché tiré à son paroxysme, en fait, cette exigence de rentabilité avec ces grands groupes qui, en fait, se font de l'argent sur la mort. Voilà. Donc, est-ce que c'est pas finalement la libéralisation poussée à l'excès qui amène à cela ?
C'est un livre politique que vous faites, un livre d'engagement, c'est ça ?
Pas tout à fait. Alors, nous, avec Mathieu, on a vraiment voulu vraiment dépeindre un portrait factuel de ce secteur, de ces deux grands groupes. Nous, on n'a pas spécialement d'engagement militant dans le funéraire.
Non, mais peut-être en conviction.
C'est vrai que quand en fait on voit ce qu'on dit dans le livre derrière ça, on se demande et tout le monde nous demande mais quelles sont les solutions finalement. Et c'est vrai que malheureusement le livre n'en présente pas spécialement. Nous on est relativement contents de voir que aujourd'hui sociétalement, politiquement, les gens commencent à s'y intéresser un petit peu parce que avant en fait,
oui,
nous quand
France
on a écrit
ce livre, la France Insoumise notamment, la France Insoumise qui a fait une proposition d'avoir une cotisation sociale des frais funéraires pour interdire une forme lucrative des pompes funèbres. Voilà, c'est une proposition.
Oui, tout à fait. Alors, ils ont fait ce travail, on va dire, en parallèle de nous. Quand on a commencé ce livre, il y avait déjà cette réflexion autour du remboursement par la Sécurité sociale. C'est d'ailleurs en parlant avec deux militants pour cette cause-là qu'on a commencé ce livre. Avant, en fait...
Donc ce livre, c'est un engagement politique ou pas?
Non, en fait, ce livre, c'est... Comment dire? Ce livre, c'est un constat implacable. Et en fait, c'est-à-dire, il ne faut pas colorer nos révélations d'une quelconque identité politique. La preuve, c'est en 2019, il y a un rapport de la Chambre régionale de la Cour des comptes qui fait l'analyse de 30 ans de libéralisation et qui dit la loi de libéralisation des obsèques, elle avait deux objectifs. Permettre la transparence, augmenter la concurrence entre les entreprises et faire baisser les coûts. Ils font le bilan, ils se rendent compte de quoi ? Ils se rendent compte que les prix ont augmenté deux fois plus vite que l'inflation. Ils se rendent compte, deuxième chose, que la transparence, elle est aucunement atteinte et que là où avant, il y avait une position extrêmement dominante de pompe funèbre générale qui était alors détenue par la Lyonnaise des Eaux, on a aujourd'hui une reconcentration du marché.
La Lyonnaise des Eaux.
Oh, elle est bonne, celle-là. Le jeu de mots, fallait le faire, celui-là. Pardon, allez-y, finissez.
Mais effectivement, c'est ça, c'est ça qu'on décrit pour reprendre la phrase que mettait en avant Chirine, c'est tout dérive de là d'un choix sociétal où on a décidé en société qu'il y avait un certain nombre de biens et services qui échappaient aux logiques marchandes classiques. Vous avez les biens de santé, les services de santé. En France, on a décidé, c'est pas le cas aux États-Unis par exemple, vous êtes malade du cancer, on va payer votre traitement du cancer. Aux États-Unis, si vous pouvez pas le payer, vous pouvez pas le payer. En France, on a décidé qu'il y avait des biens et services qui rentraient pas. On a choisi en société que les biens funéraires étaient des biens commerciaux comme les autres et que les acteurs évoluaient dans un marché concurrentiel, faisaient des choix rationnels, comparaient, mettaient en concurrence. La réalité de ces dépenses funéraires, c'est qu'elles sont pas, faites dans un moment comme les autres.
Merci à tous les deux. Je conseille ce livre, Les Charognards, Pompes funèbres, enquête sur le business de la mort aux éditions du Seuil. J'ai découvert aussi, moi, le parcours des métaux après la création. J'avoue que je ne connaissais pas les dents en or, les prothèses, mais je vous laisse découvrir ça en lisant le livre. Merci, Brian Huguère-Cousin et Mathieu Cisse d'être passés par les GG.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le meilleur des grandes gueules.
Pourquoi est-ce qu'on va en reparler là pendant moins d'un quart d'heure là avec vous au 32-16? Parce que en fait, c'est la fédération qui regroupe les grandes chaînes de boulangeries, c'est-à-dire Paul, la Micaline, Ange, je vais pas toutes les citer, vous les connaissez, qui se bat toujours pour que elle puisse travailler 7 jours sur 7. Aujourd'hui, vous savez, quand vous êtes artisan boulanger, ben vous avez un jour de repos, vous ne pouvez pas non plus faire travailler vos employés le 1er mai. Alors, est-ce que il faut oui ou non accéder à cette demande? Alors aujourd'hui, la mesure d'ouverture 7 jours sur 7, elle est déjà en place dans 54 départements en boulangerie industrielle. les boulangers artisanaux disent, bah ouais, allez-y, laissez faire, et nous on crève derrière, parce qu'on n'aura pas forcément les employés nécessaires pour pouvoir ouvrir, nous aussi, 7 jours sur 7. Et souvent, les boulangers, ben, c'est des artisans. Ils travaillent avec un ou deux employés, ou même des fois en famille, encore. Donc, est-ce qu'on on laisse les chaînes de boulangerie ouvrir 7 jours sur 7? Oui ou non? 32-16 pour en parler avec les GG. Chirine?
Bah écoutez, moi je crois que non. Moi je crois qu'il faut qu'il y ait un jour sacralisé où on travaille pas déjà. Donc par principe, je pense que ce jour, alors je partage pas, voilà, forcément, c'est pas pour des raisons confessionnelles, hein, le dimanche. Mais moi je pense qu'il y a un jour qui doit être sacré où on fait d'autres activités. On est avec sa famille. Si on n'a pas de famille, eh ben on va faire d'autres activités. Voilà, qui soient pas marchandes. Tout à l'heure, on parlait de la question de est-ce que tout doit tout le temps être marchand et est-ce qu'on doit tout le temps produire tout le temps? Je crois que non, et je crois que c'est le rôle de la puissance publique que face à ces grands conglomérats, encore une fois, qui veulent nous aligner sur une société dans laquelle on se tue absolument au travail, les artisans boulangers, ils se tuent déjà d'ailleurs à la tâche, je crois qu'ils ont le droit d'avoir un jour chômé, un jour de repos, et donc il faut aller contre.
Voilà, il faut aller contre, il ne faut pas laisser les chaînes de boulangerie, les groupes industriels 7 jours sur 7.
Parce qu'à ce compte-là, on travaille effectivement 7 jours sur 7, du matin au soir, et puis on s'arrête plus. Les supermarchés, eh ben, ils sont ouverts tout le temps, et puis on les ferme plus, et puis on devient des cyborgs et des machines aussi. On peut aussi faire ça.
Charles.
Je crois qu'on peut rester un jour sans pain frais, sans mourir.
Je pense que dans la France d'aujourd'hui, on est quand même très très loin d'une situation où on travaillerait tous sans s'arrêter. Hein. On est quand même vraiment très loin de ça. Il faut être lucide. On est plus dans une situation où le travail devient l'exception et la station sur canapé, la règle. Donc, je vois pas, moi, surtout le problème qu'il y aurait pour les boulangeries indépendantes qui ne pourraient pas, elles, payer un salarié pour être ouverte le lundi, puisque si je comprends bien, c'est le lundi et non pas le dimanche qui est le jour chômé en l'occurrence. Quel est le problème que la boulangerie qui appartient à une chaîne, soit elle ouverte le lundi. Je vois pas en quoi ça pose une difficulté. Donc j'y suis évidemment favorable.
Ça pique des clients, puisque l'autre n'ouvre
pas. Mais c'est pas le même jour. Qu'est-ce que ça peut faire?
Ah oui, mais l'autre se dira, bah, à ce moment-là, tu obliges l'autre à ouvrir aussi.
Mais du pourquoi
coup. Bah si.
Les clients, ils peuvent aller dans la boulangerie indépendante les autres jours de la semaine, et dans la boulangerie qui fait partie d'une chaîne, le jour où elle est ouverte.
Par exemple, le lundi, tu vas dans cette chaîne qui est ouverte, et puis tu dis bah je vais acheter un peu plus de pain et le lendemain tu iras pas chez ton boulanger parce que
tu achètes ton pain d'avance.
C'est pas bon
le pain d'avance.
Mais tu peux acheter une baguette et demie.
Ça vieillit très vite une baguette.
Et puis, le lendemain tu vas pas chez ton boulanger parce que t'en as gardé. Et lui il a perdu un client sur ce jour-là quoi.
Mais écoutez, moi je voterais cette mesure si j'étais parlementaire. Je pense que il faut un peu de liberté économique quand même en France, un tout petit peu.
Oui.
Emmanuel.
L'industrialisation des boulangeries est quand même un problème sur le plan de la qualité. Car maintenant, ce sont des produits vraiment normés, sans goût. On est loin du pain des années 60 et des années 70. Ne parlons pas des croissants, qui maintenant, très souvent, sont des choses insipides, qui ont à peine la gueule d'un croissant. Il faut pas banaliser cette dérive qui est aussi une dérive vraiment d'industrie économique là, des grands groupes de boulangerie. On en connaît tous, et autant à l'étranger, ça porte les valeurs de la France et un certain prestige, les clients étrangers étant tellement ignares en matière gastronomique que ça leur paraît extraordinaire, mais pour la France, la décroissance des boulangeries indépendantes est un peu un drame sur le plan de la culture française.
Chirine.
Non, mais moi, je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je vais même aller plus loin. Moi, je crois que le savoir-faire artisanal français qui s'exporte effectivement à l'étranger, c'est une fierté, en fait, de défendre notre baguette. Alors, je suis pas chauvine en disant ça, bien au contraire. Je crois que les artisans, les jeunes qui vont dans des écoles, effectivement, qui sont formés ou même pas forcément qui passent dans les écoles, moi, je crois à ce savoir-faire-là. Et je crois que c'est dans les petites boulangeries, effectivement, indépendantes, eh bien, qu'on est fiers de faire un pain. Alors, pas parce que c'est le pain français ou pain patriotique, mais parce que on se transmet comme ça.
Donc, il faut que les pouvoirs publics tiennent bon là-dessus.
Bah oui, faut qu'ils,
même
faut
si
qu'ils
on
tiennent
est
bon.
À 54
faut qu'ils aillent au rapport de force, bien sûr.
54 départements qui ont déjà dit ouais. OK, vous pouvez ouvrir.
Bah non, mais moi je crois que justement le pouvoir politique à un moment donné où il faut aussi qu'il impose un rapport de force à l'égard de ces grands géants industriels, parce qu'effectivement quand il y aura plus de petites boulangeries indépendantes, on voit déjà que dans certaines zones de la ruralité, etc., hein, on a du mal à garder des petits commerces locaux, etc. Bah oui, effectivement, si tout le monde se reporte.
Il y en a, moi je.
Non, non, mais
c'est marrant comme dès qu'il y a un tout petit peu de. Enfin, je veux dire, il faut voir ce que c'est quand même. Moi, je suis très frappé quand je vais en dehors de Paris par la faible fenêtre, là ça fait vraiment parisien de dire ça, donc je vais me faire insulter par beaucoup d'auditeurs,
mais ce sera avec plaisir.
Je l'assume, notamment quand je vais dans le Jura, qui est comme vous le savez ma seconde patrie, je suis frappé par le très faible temps qu'on a pour aller faire des courses, c'est-à-dire que les magasins sont quand même ouverts très peu, je suis désolé, si vous fermez 2 ou 3 heures à l'heure du déjeuner, si le soir dès 18h vous baissez le rideau, etc., bah, faut pas vous étonner derrière de pas faire le chiffre d'affaires dont vous rêvez. Il y a un moment donné, une entreprise, elle fonctionne aussi de par sa disponibilité vis-à-vis des clients. C'est quand même pas extravagant de dire ça. Et c'est marrant comme en France, dès qu'il est question de travail, de liberté économique, etc., il y a une espèce de raidissement. Donc voilà, la prochaine étape, comme je le disais tout à l'heure, c'est que on va payer son pain avec sa carte vitale.
Moi je trouve ça hyper caricatural. Bah quand en fait c'est fermé, c'est fermé, et après l'heure, c'est plus l'heure, hein. Et alors moi aussi, hein, j'ai une deuxième patrie d'adoption qui est la Normandie, hein, près de Livaro, et bah je me dépêche, voilà. Donc moi je suis parisienne aussi, hein, et bah quand c'est plus l'heure, c'est plus l'heure, et bah je mange pas de pain, je fais autrement, voilà, c'est aussi très plaisant.
Faut pas se plaindre.
Mais c'est aussi, mais je me plains pas,
je parle des commerçants, de se dire, voilà,
non, mais il faut accepter aussi que le guichet, il est pas tout le temps ouvert et qu'il y a des temps, effectivement.
Oui, mais moi, mon guichet, madame, il est ouvert. Moi, quand l'URSSAF me prend les 3/4 de mes revenus.
Oui, mais moi aussi,
main dans
c'est
la
pas
main,
très grave. Voilà,
main dans
moi
la
aussi,
main,
je les paye.
Avec,
hein.
l'État, etc. Oui. Moi, mon guichet, il est ouvert H24 pour payer ce pays qui tourne au ralenti. Parce que tout ça se paye à la
fin. C'est pas vrai, les gens travaillent beaucoup.
Bien sûr, tout ça, on le paye.
Et on travaille tous beaucoup.
Cyril, nous met l'eau à la bouche en parlant des grands fromages français, mais un grand fromage français avec un pain dégueulasse, c'est quand même un problème.
C'est Jérôme qui nous appelle de l'Allier. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Boulanger, mais boulanger dans une chaîne ou boulanger artisan?
Je suis artisan, un vrai, je fabrique tout.
Alors, justement, qu'est-ce que vous pensez de cette bataille-là, alors, pour l'ouverture?
Moi, je suis ouvert 7 jours sur 7 depuis plus de 10 ans.
Ouais.
Parce que justement, on a été attaqué par les grandes chaînes. On en a partout, hein, comme partout. Donc, on a pris la décision d'ouvrir 7 jours sur 7.
Et vous tenez?
Oui. Bah, en fait, après, il faut avoir son équipe et tout le monde a 2 jours de repos par semaine. C'est tout.
D'accord. Mais c'est vous qui bossez les 7 sur 7, alors, du coup?
Non, j'arrive à avoir du repos aussi. Il faut avoir une équipe, quoi.
Mais ce qui est intéressant, vous dites, en fait, c'est les grandes chaînes qui vous ont poussé à ouvrir 7 jours sur 7. Sinon,
bah,
vous
oui,
étiez.
Parce qu'on a quand même perdu du chiffre un petit peu, donc on n'avait pas le choix.
Voilà. D'accord. Mais est-ce que ça s'est senti dans la croissance? Est-ce que vous avez fait davantage de chiffre d'affaires? Est-ce que vous vous êtes développé? Alors, ou c'est en vain?
22 ans que je suis installé, j'ai acheté une boutique qui faisait 185 000 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je suis à 650.
Ah ouais, 650 000 euros.
Ouais. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est pas trop l'histoire des 7 sur 7, les choses comme ça. C'est surtout, par exemple, les grands chaînes, eux, ils jouent pas avec les mêmes règles que nous.
C'est-à-dire?
Nous, on est en convention boulanger-pâtisserie et pas eux. Donc au niveau des salaires et tout ça, c'est pas du tout la même chose.
Et même au niveau des charges, en ce qui concerne les charges énergétiques et autres, quoi, c'est
tout
ça, oui.
Et ouais. Nous, il n'y a pas de smicard dans notre métier, alors que bon, il y a des smicards.
Ils payent au ras des pâquerettes, quoi.
Voilà. C'est ça le truc. C'est surtout ça, moi, qui me met surtout en colère, plutôt que l'histoire des 7 jours sur 7.
Donc c'est un autre sujet. Hein.
Et Jérôme, ouais. Le principal, c'est donner le nom de votre boulangerie, tiens, qu'on vient de faire les courses chez vous. Allez-y, Jérôme.
Boulangerie pâtisserie Thomas, Iser.
À Iser dans l'Allier. Merci d'avoir été dans les GG, Jérôme. À bientôt. Et Chirine, avec son Livaro, elle nous a donné faim.
Ah ouais.
Qu'est-ce que c'est bon, le Livaro?
Le camembert, ouais. Le Livaro, le camembert.
Avec un bon pain frais. Ouais, qu'est-ce que tu bois avec ça, avec modération? Tu prends quoi, là?
Alors, un bon vin rouge, par définition, un peu frais.
Un peu frais. Un petit gamay, quelque chose comme
voilà.
ça, ouais.
Mais,
Bah, vous voyez qu'on est d'accord.
Avec plaisir et avec modération. Et là, on est d'accord. On est tous d'accord là-dessus. Ouais. Alors, est-ce qu'il faut autoriser les chaînes de boulangerie à ouvrir 7 sur 7? On va voir ce que vous en pensez. Oui, à 64%. Vous êtes donc plutôt sur la ligne Consigny, le libéral.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le meilleur des grandes gueules.
Je suis passé en commission économique à l'Assemblée nationale. J'ai eu des bonnes et des mauvaises surprises, mais c'est vrai que j'étais atterré par le niveau intellectuel et économique de certains députés, quoi. Vraiment, ne comprennent absolument rien à l'économie et ne s'informent pas et ne lisent pas et ne regardent pas. Ils vous parlent sans être informés.
Voilà, ils ne comprennent strictement rien à l'économie, déclare Philippe Aguillon. Parce que les députés sont nuls.
L'homme qui a découvert Macron, l'homme qui nous a expliqué que Macron c'est le Mozart de la finance. Ah bah, on me dirait il est prix Nobel d'économie.
Alors bon. C'est vrai que Philippe Aguillon, il a contre lui le fait quand même qu'il a été
gros dossier.
Voilà, l'un des conseillers d'Emmanuel Macron et de François Hollande. Alors la politique de l'offre, c'est peut-être la seule chose qui a fonctionné dans les années Macron, parce qu'on a quand même réussi à faire baisser le chômage, à créer plus d'emplois et à permettre à des entreprises de se développer dans le premier quinquennat de Macron. Mais néanmoins, c'est vrai que moi, ce qui me surprend, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais quand j'écoute les députés faire la leçon à des chefs d'entreprise en expliquant, il y en avait un hier sur BFM TV avec nous, député de la France Insoumise, qui expliquait en gros à un type qui est leader quasiment mondial des implants dentaires, ce qu'il fallait, comment il devait gérer sa boîte et ses salariés. Et ça, je me dis, ce député Antoine Léaumont, qui n'a jamais été dans une entreprise, qui à part être député et militant, n'a pas fait grand-chose dans sa vie, expliquait donc un type qui crée des richesses, qui emploie 2000 salariés, qui est plutôt une fierté française, comment il devait faire. Et je me dis, c'est quand même une arrogance, en fait. C'est même plus que l'ignorance, c'est l'arrogance de certains députés.
Alors, non, mais... Bon, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais cette arrogance, justement, il la partage avec Monsieur Aguillon. C'est-à-dire que, à la fois, l'arrogance, la suffisance, l'incompétence et la nullité en économie, c'est un point commun à certains députés et à Monsieur Aguillon. Ils partagent, en fait, ce point commun, donc ils devraient s'entendre, puisque justement, ils leur reprochent leur nullité. Bah, comme lui-même, il est très nul, il y a un point commun majeur. Ils devraient faire des soirées ensemble pour communier dans cette nullité économique.
Au protoxyde d'azote.
Mais je pense que Monsieur Aguillon plane déjà beaucoup sans protoxyde d'azote. Et donc moi je suis un peu surpris, parce que M. Aguillon a été conseiller de François Hollande, comme on l'a dit, avec le bilan que l'on sait. Ensuite, M. Aguillon, qui justement, c'est ce que disait Barbara, a découvert Macron, nous a dit que c'était le Mozart de la finance, l'a conseillé. Quand on voit le résultat, vraiment, le déficit commercial, les fermetures d'usines, les milliers de milliards de dettes, mais vraiment, enfin, c'est sidérant. Et enfin, les théories d'Aguillon, je les connais. En elles-mêmes, elles ne sont pas absurdes, mais le problème, c'est que M. Aguillon et ses amis ont voulu et continuent de vouloir les appliquer à la France. Ils nous expliquent qu'on est sur le seuil technologique, qu'on doit devenir une start-up nation et que pour ça, il faudrait liquider nos usines.
Ben oui.
C'est ça.
Parce que
c'est-à-dire l'entreprise sans usine. Parce que, évidemment, l'usine, c'est sale. Alors, ça déplaît beaucoup à M. Aguillon qui, lui, préfère les amphithéâtres bien chauffés. Et donc, voilà, c'est exactement... C'est-à-dire que la théorie d'Aguillon... C'est exactement toutes les erreurs que l'on commet depuis 30 ans et qui fait que, par exemple, bah, au moment du Covid, on n'avait pas de masque parce qu'on n'en produisait plus. Aguillon, c'est la désindustrialisation, alors qu'il aille communier dans la nullité.
C'est le procès d'Aguillon, alors qu'on parlait, on allait dire qu'il est plus nul.
Non, mais c'est important, tu sais.
C'est intéressant.
La question, comme Isabelle, la question, c'est pas est-ce qu'Aguillon et l'économie sont plus nuls. La question est savoir
si les économistes sont plus nuls. Non, parce que ce qui est intéressant, c'est que M. Aguillon.
Les meilleurs en économie qu'Aguillon.
Non mais parce que Aguillon il représente
un grand soudanais meilleur en économie qu'Aguillon, au moins il peut gérer un business qu'on n'a jamais fait ce nul d'Aguillon.
Monsieur Aguillon, il est ce qu'on appelle un post schumpeterien, c'est-à-dire la destruction créatrice. Il faut que un tissu non parce que c'est intéressant. Il faut qu'un tissu mais justement on peut expliquer en deux secondes. Il faut qu'un tissu économique soit complètement détruit pour qu'un autre se crée. Voilà. Et c'est quelqu'un qui est très adepte de la théorie du ruissellement. Deux théories complètement foireuse, dont on voit en France qu'elles n'ont rien produit, parce que justement Macron est complètement post-schumpeterien et il est sur le ruissellement, ni l'un ni l'autre n'ont fonctionné. Vous savez d'ailleurs comment il a rencontré Monsieur Macron, c'est que Monsieur Macron est allé à sa conférence inaugurale au Collège de France en 2015. Macron était alors ministre de l'économie, s'est assis au premier rang et il a pris des notes pendant une heure du discours inaugural de Monsieur Aguillon. Et Monsieur Aguillon était fasciné par le ministre de l'économie qui prenait des notes sur tout ce qu'il disait. Ça s'appelle le l'enfumage macroniste habituel, oui, la flatterie. Macron fait que ça depuis 10 ans.
Bon, d'accord, mais est-ce que les députés sont les plus nuls de la 5e République?
Alors, je vais vous dire un truc.
Pardon, mais on parle d'autre chose.
À mes yeux, un truc qui va peut-être vous... Moi, je ne crois pas du tout qu'il soit nul. Moi, je suis désolée. J'ai déjà regardé les diffusions de ce qui se passe en commission. Moi, en commission des finances, en commission des affaires publiques, en commission des affaires sociales, en commission des affaires culturelles, il y a des députés qui sont pas au niveau, mais ça a toujours été comme ça. Vous pensez que sous la Troisième République, tous les députés, c'était des Victor Hugo, ou des Aristide Briand, mais n'importe quoi. Vous aviez des gens médiocres. Là, il y a des gens médiocres, mais il y a des gens. Non, moi, je suis désolée. À la commission des finances, il y a des gens qui touchent leur bille. Et d'ailleurs, je vais vous dire, les Nasbrock, on les entend plus trop. Moi, je trouve qu'il y a des députés qu'on n'entend plus. Il est où, monsieur Delogu?
Ça, c'est vrai, il a disparu de la circulation.
Allô, Sébastien?
Non, mais Barbara a raison, c'est-à-dire qu'à l'Assemblée...
Donc, c'est pas grave, ils disparaissent d'eux-mêmes. Boyard, on l'entend plus, sauf quand c'est pour nous sortir son histoire de montre. Donc, il y a des gens, de toute façon, vous les entendez jamais. Moi, je suis désolée. Oui. Je trouve que M. Coquerel, il tient la route dans son genre. Oui, M. Tanguy tient la route dans son genre. Moi, je suis navrée, non, ils ne sont pas plus nuls. Ils sont pas plus nuls.
Philippe Brun,
il tient la route.
Il y a plein de gens qui tiennent la route. D'accord, mais vous parlez d'une dizaine de députés.
Ça a toujours été comme ça.
Sur 577.
Sous Hollande, ils étaient tous des génies, peut-être. Sous Sarkozy, c'était que des génies qu'on avait à l'Assemblée. Mais alors pourquoi la France est dans cet état-là? Pourquoi ils n'ont jamais fait un budget à l'équilibre?
Il y en avait peut-être certains qui n'ont jamais fait un budget à l'équilibre.
On va voir Francis du côté de Couffé en Loire-Atlantique.
Je vais faire un espèce d'en même temps. C'est vrai que de façon globale, on a quand même un affaissement du niveau politique qui est peut-être générationnel. Avant, on avait des politiques soit qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale et ensuite qui ont été formés par des gens qui avaient connu la Deuxième Guerre mondiale, et en termes déjà d'incarnation, de posture, de stature, ça en jetait plus. Mais maintenant, en termes de niveau, il y a toujours eu des excellents et des branquignoles. Comme ça a été dit, Éric Coquerel, je trouve qu'il gère à merveille la commission finance. Et il est très neutre, contrairement à ce qu'on croit. Il est pas du tout sectaire. Il est à l'écoute. Donc.
Bah, sur les finances, hein, parce que sur le reste.
Moi, je parle de la commission finance. Ah, tu veux toujours m'emmener sur, on va pas finir sur les migrants et les prothèses dentaires
d'accord.
Donc.
Si on pouvait éviter Gaza pour une fois.
Ouais, en plus. Donc, moi, je trouve que, en plus, lui, il a cette manière de jeter l'anathème. On le voit quand il arrive en plateau télé. Il aime voir la bannière prix Nobel, donc il se pose là comme un espèce de dieu grec et tout, alors que lui-même il n'a rien apporté à
surtout
la France.
Surtout qu'il l'a eu avec trois autres personnes.
Non, nous n'avons deux pas les personnes. Députés les plus nuls de la 5e République.
Francis va en débattre avec nous. Bonjour Francis.
Bonjour à vous, bonjour à tout le monde.
Bonjour, qu'est-ce que vous en dites Francis alors? Est-ce que vous êtes du même avis que M. Aguillon?
Moi je suis pas quelqu'un très intelligent. Je pensais que ces gens-là, avec toutes ces études qu'ils avaient faites, ils seraient intelligents. Et ils sont en train de courir après des 5-10 milliards. Moi, si je fais un petit, j'ai fait une petite liste et je pense qu'on peut économiser au moins 400 ou 500 milliards. Hein, je vous fais une petite liste vite fait. Donc, par exemple, toutes ces agents qui servent à rien, terminé. Vous aviez reçu le maire de Saint-Ouen, hein, qui avait dit qu'il fallait passer de 6 strates à 3. Là aussi, des milliards à économiser. Vous aviez reçu Monsieur Gattaz, qui était d'accord pour dire plus aucun subvention aux entreprises. On est à plus de 200 milliards. Par contre, eux, il faut leur baisser les impôts pour qu'ils puissent continuer à investir, à employer et à augmenter les salaires. Les élus, effectivement, il y en a trop. Hein. Je pense que 400 députés et 100-120 sénateurs suffiraient. J'avais entendu Monsieur Breton, qui était sur BFM, et qui disait que au lieu que ça soit l'État qui donne de l'argent aux entreprises, aux associations, il faut faire l'inverse. Il faut que ça soit ces associations, ces entreprises qui fassent une demande motivée à l'État. Et après, l'État réfléchit et voit s'il peut leur en donner un peu ou pas du tout. Et ensuite, moi ça fait longtemps que je le pense, je suis d'accord avec Mourad, il faut que la dette française reste en France. C'est-à-dire qu'il faut que l'État fasse un grand emprunt aux Français. et parce que tous les remboursements de cette dette, on est à 71 milliards, si je me souviens bien, et dans les années futures, eh ben, ça va être à 100 milliards.
Donc, si je résume votre propos, vous dites que c'est pas forcément qu'on a les plus nuls, mais on en a trop, donc, et ils nous coûtent cher, si j'ai bien compris ce que vous dites, quoi.
Bah oui, ils nous coûtent cher, mais en fait, ils ont aucune idée. Les économies, il y a des centaines de milliards.
Alors, je suis d'accord que quand on parle de baisse de dépenses, il n'y a pas beaucoup d'idées. En revanche,
baisser la contribution française au budget européen.
Sur la fiscalité, ils sont très créatifs.
Exactement.
L'aide au développement, un peu moins.
Ouais, mais il faut faire des économies. Moi, j'écoute.
Mais on est d'accord, Francis, seulement faire des économies, ça veut dire aussi couper. Pourquoi ils ne veulent pas les faire? Parce que les économies dont vous avez parlé, ils les connaissent, hein, théoriquement, tous nos députés. Ils ne veulent pas les faire parce que sinon, ça ne va pas leur permettre d'être réélus. Parce que sur le terrain, les Français, quand on les a dans des forums, à la télé, pour parler, pour déplorer et dire il faut couper ci, il faut couper ça, il faut couper ci, le jour où quelqu'un de vraiment courageux va arriver et va dire voilà, là on va y aller, l'électrochoc, on va couper, là vous allez voir tout le monde dans les rues qui va pleurer parce qu'il aura pas reçu son chèque énergie. Donc moi je suis d'accord avec vous en théorie. Le problème c'est que les Français, ils vont aller voir leurs députés, ils vont dire si vous votez ça, moi je vote plus pour vous. Et le député lui va être réélu. Donc c'est le serpent qui se mord la queue.
Notamment l'argent donné aux associations. Il y a quand même derrière des arrière-pensées.
Ne nous lance pas.
Électoral, bien sûr.
Francis, on va écouter l'avis de Nicolas. Bonjour Nicolas.
Oui, salut les GG, comment ça va ?
Bienvenue Nicolas, très bien. Notre ami Nicolas du Rhône, sapeur-pompier. Alors, qu'est-ce que vous en dites, Nicolas ?
Alors, effectivement, je pense qu'on peut dire qu'ils sont incompétents dans certains domaines. Pour le coup, ils sont quand même compétents dans certains autres domaines. Ce qui me choque surtout, moi, c'est qu'en fait, ils ne tiennent pas compte des retours du terrain. Et moi, je prends le cas au niveau des pompiers. On est géré par des collectivités territoriales. Donc c'est des élus au final qui signent les documents, qui payent, etc. Et on leur fait des remontées de terrain et en fait ils n'en tiennent pas compte. C'est des gens qui ont un ego surdimensionné, ces élus, qui pensent détenir le savoir et penser savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien, sans chercher forcément à faire des compromis. Eux seuls savent ce qui est bien. Et en fait on en est là, on marche sur la tête sur les décisions qui sont prises et on perd de l'argent comme ça. Si on écoutait, je pense que s'ils écoutaient les retours terrain, on gagnerait de l'argent, on serait plus pragmatique et on ferait des choses qui seraient beaucoup plus.
Je suis d'accord avec vous, logique. Mais vous savez quoi? Je pense que la fin du cumul des mandats était finalement une erreur parce que la plupart de ces députés n'ont pas d'ancrage local. Et donc ils sont pas au contact du petit patron de PME, du commerçant du coin, de l'artisan, etc. Et je pense qu'ils sont en décalage. Beaucoup ne passent leur temps à Paris, mais c'est le 7e arrondissement, c'est pas la France et où le 6e, et je pense que ça a été une erreur de François Hollande. Peut-être que le cumul des mandats, il fallait le supprimer pour les maires des grandes villes, ou voilà. Mais pour le reste, ça manque cet ancrage.
L'ancien
local.
Député maire manque.
Mais même pas, tu pouvais laisser le cumul des mandats. Le problème, c'est le cumul des salaires et le cumul des retraites.
Non, il y a deux. Voilà. En fait, il y a deux choses qui se télescopent. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on demande aux députés? De voter un budget pour faire tourner l'État, quoi, en fait. Et à côté de ça, t'as le monde qui avance. Il y a toujours ce décalage entre
la façon de faire voter ce budget, c'est
des députés
c'est
qui doivent
décalé.
Voter un budget pour les retraites, pour la sécurité sociale, pour faire tourner l'État. Mm-hmm. Et là, en ce moment, t'as l'intelligence artificielle qui arrive. Comment les députés, les élus n'ont pas vu venir la révolution technologique avec Google, Apple, etc. Et donc, tu as le monde du privé, tu as le monde des entreprises qui lui avance. Et là, ça va être le monde de l'intelligence artificielle qui va arriver. Et nous, on est là à essayer de gérer finalement comment faire fonctionner un État. Et c'est là où je suis pas d'accord avec toi, Barbara. À propos de Philippe Aguillon, c'est qu'il a raison. En fait, l'économie, c'est schumpeterien. L'économie, c'est la destruction créatrice. Et là, tu vois, le rôle des députés et du politique, ce serait plutôt d'envisager le monde d'après, la France d'après, sauf qu'on ne peut pas. Parce que la France d'après, elle va être bousculée par l'intelligence artificielle.
Alors on en a parlé ici, je sais.
Il va y avoir des destructions.
Mais bien sûr.
Il va y avoir de la destruction, mais d'autres choses vont se créer derrière.
Moi, je suis désolée.
Mais on n'arrive pas à l'anticiper, tu vois.
D'un point de vue théorique, c'est une réalité. Une forme d'économie. Le jour où la voiture est arrivée, la calèche, ça s'est terminé, les cochers ont été au chômage.
Et le train.
Voilà, non, mais ça, on est d'accord. Ouais. Mais monsieur Aguillon, qui est quand même un ancien communiste, un socialiste, tient une théorie qui est une théorie en réalité très libérale, et je suis d'accord avec cette théorie d'un point de vue purement théorique, voilà, c'est le cas de le dire. Mais aux États-Unis, ça fonctionne, ça. Oui, parce que vous avez une économie hyper libre, une innovation, une recherche permanente. Mais on est en France dans un État où
avec des députés
corsette,
qui font de la politique et qui doivent gérer un État fonctionnaire.
Mais pas que ça, pas que les députés, où on a aussi des dirigeants qui corsettent l'entreprise, qui lui collent des taxes, qui l'empêchent.
Donc,
qui lui...
c'est pas la faute d'Aguillon.
Et qui vont donner de l'argent à des grosses entreprises qui n'ont pas besoin de ça, comme Crédit Impôt Recherche, mais qui n'en donneront pas, par exemple, à une petite PME sous-traitante. Donc moi, je veux bien la théorie de la destruction créatrice. Mais le problème, c'est qu'en France, on détruit, mais on ne crée rien derrière.
Au-delà, c'est qu'on passe quand même des semaines à débattre de la réforme des retraites, qui, à mon sens, n'est pas la priorité numéro un du pays. La réforme des retraites, savoir s'il faut partir à 62, 64 ans. Mais dans les autres pays, c'est des questions qui ont été tranchées il y a des années de ça, qu'il fallait effectivement travailler un peu plus parce qu'on vit plus longtemps, ce qui était d'ailleurs semble assez logique. Et là, nous, on est toujours, et là, on est même revenu en arrière puisqu'on a suspendu cette réforme de retraite. C'est ça aussi qu'on peut reprocher à nos députés d'être en décalage par rapport aux attentes notamment des jeunes.
Nicolas, je vous remercie d'avoir été dans notre discussion. Alors, nos députés sont-ils les plus nuls de la 5e République? Sont-ils nuls en économie? On va voir ce que vous en pensez. Vous dites oui à à 92.
On sent l'amour.
Il y a un certain rejet. Je connais un petit prof de SES en seconde. Si jamais Monsieur Aguillon veut s'inscrire pour prendre des cours particuliers avec ce professeur, il est le bienvenu.
RMC jusqu'à midi, le meilleur des grandes gueules.